BW. Droits et libertés.
Cette semaine, nous parlons de deux thèmes très différents. Un nouveau label qui doit aider les consommateurs à éviter le gâchis et les dépenses inutiles pour les appareils électroniques. Et puis Human Rights Watch qui reproche aux autorités rwandaises de réprimer systématiquement les voix jugées dissidentes. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. L'ONG de protection des droits humains et Human Rights Watch dénonce la répression par les autorités du Rwanda des personnes qui critiquent le gouvernement. Cette répression vise essentiellement des journalistes, des militants de la société civile, des youtubeurs et bien sûr des membres de l'opposition politique. Selon Human Rights Watch, le pouvoir n'hésite pas à recourir aux intimidations et parfois à la violence pour museler la liberté d'expression. L'ONG, qui dénonce aussi le manque d'indépendance de la justice au Rwanda, n'avait pas obtenu de réponse des autorités au moment où nous enregistrons cette émission. Pour parler avec nous de ces abus, Louis Mudge, directeur du bureau de Human Rights Watch pour l'Afrique centrale.
Les autorités judiciaires au Rwanda poursuivent des membres de l'opposition, journalistes et commentateurs, pour leur discours et leur opinion. En 2020 et 2021, Human Rights Watch a suivi plusieurs procès lors les autorités judiciaires ont engagé des poursuites pour des motifs politiques et entretenu un climat d'intolérance à l'égard de la dissidence.
Quels sont les arguments les plus fréquemment avancés par les autorités rwandaises pour poursuivre ces personnes?
Les autorités rwandaises accusent souvent ces personnes de créer une opinion hostile du Rwanda ou bien de tenter d'inciter les gens contre l'État. Dans le cas où des personnes ont part de génocide d'une manière qui ne correspond pas avec la version officielle des faits, ces gens-là peuvent être aussi accusés d'infractions liées à l'idéologie du génocide. Mais dans le droit international, normalement, le gouvernement, ils ont la responsabilité de créer un environnement où les gens ou bien les groupes à la liberté de réunion pacifique. Ils ont le droit d'expression pacifique et d'association.
Dans votre communiqué, vous évoquez l'existence d'une ligne rouge à ne pas franchir au Rwanda. De quoi parlez-vous?
Depuis 1994, parler des crimes commis par le Front patriotique rwandais, ça veut dire le FPR, au pouvoir après le génocide, ou bien tout simplement de même commémorer les Hutus tués pendant le génocide, c'est perçu comme une ligne rouge à ne pas franchir au Rwanda. Un exemple que je peux donner, c'est celui de Kizito Mihigo, qui avait été arrêté et emprisonné après avoir chanté, écrire et produire une chanson dans laquelle il a exprimé sa compassion pour les victimes de tout crime, que ce soit le génocide ou bien le crime commis par les FPR. Donc, après la sortie de cette chanson, c'était considéré qu'il a dépassé une ligne rouge au Rwanda.
Pourquoi est-ce que vous parlez de poursuites abusives portant atteinte à la liberté d'expression?
Bon, les autorités judiciaires rwandaises, selon nous, ils n'ont pas l'indépendance nécessaire pour défendre et protéger la liberté d'expression conformément au droit international. Ces personnes injustement emprisonnées devraient être libérées immédiatement et sans condition, selon nous à Human Rights Watch. Et le cadre juridique abusif qui a permis leur poursuite devrait être revu selon les normes internationales relatives à la liberté d'expression.
Vous citez notamment les membres du parti de Victoire Ingabire comme exemple. Sur quoi est-ce que vous basez ces accusations?
Bon, au moins 8 membres de DALFA, le parti d'opposition de Victoire Ingabire, ont été arrêtés et inculpés pour propagation de rumeurs et la formation d'une association criminelle. Et ils ont été arrêtés, en fait, pour avoir participé et dans une formation pour se familiariser avec les stratégies des contestations pacifiques. Donc, ces arrestations envoient un message clair à tous ceux qui voudraient se mobiliser, à tous qui se voudraient s'organiser ou faire campagne pour un programme politique à l'approche de la prochaine élection. Même si il veut avoir une formation pacifique, les structures du pouvoir en place peuvent considérer ces activités comme une infraction pénale. Il faut être clair, le gouvernement rwandais peut avoir des raisons légitimes à chercher de limiter le discours dangereux et violent qui a entraîné la mort de plus de demi-million de personnes en 1994. Ça, c'est clair. Mais la loi et la pratique actuelle qui est en train de limiter les opinions, les débats et les critiques du gouvernement vont bien au-delà de cet objectif. Donc, alors que le Rwanda est en train d'intensifier ses efforts pour combattre l'idéologie de génocide, ça sera nécessaire d'assurer que le Rwandais puisse exprimer pacifiquement leurs revendications légitimes concernant les génocides et les périodes, qu'on peut dire, les périodes post-génocide.
Et pour finir, quel appel est-ce que vous lancez aux autres pays?
Comme le Rwanda est en train de se préparer à accueillir en juin prochain la réunion de chefs de gouvernement de Commonwealth, la communauté internationale a le devoir de prendre position et faire pression sur les autorités rwandaises. Il faut aussi demander la libération immédiatement et l'abandonnement de toutes les charges contre les membres de l'opposition et aussi les journalistes et commentateurs de YouTube qui ont été l'objet de poursuites abusives. Il faut aussi demander les autorités d'ouvrir des enquêtes crédibles, indépendantes et transparentes sur les décès et les disparitions suspectes de opposants ou bien sûr les acteurs de la société civile ou des journalistes. Et d'engager des poursuites contre les personnes qui en sont responsables.
Vous écoutez toujours Droits et Libertés et nous parlons maintenant protection des consommateurs. Le gouvernement allemand et la Commission européenne songent à instaurer un indice de réparabilité des appareils électroniques. En France, cet indice existe déjà depuis plus d'un an. Il oblige pour l'instant les fabricants à prouver que 5 types de produits sont effectivement réparables à des prix abordables. Les smartphones, les téléviseurs, les ordinateurs portables, les machines à laver et les tondeuses à gazon. Vous l'aurez compris, ce sigle doit aider les consommateurs dans leur choix pour éviter de mettre trop d'appareils électroniques au rebut alors qu'une réparation pourrait être possible.
Je vais acheter un nouveau, il est réparé, je l'ai réparé, j'ai changé l'écran il y a 2 ans. Mais bon, pour le prix de l'écran, je vais acheter un autre. Là, la batterie elle tient plus. Je préfère acheter un téléphone neuf et tranquille pendant 2-3 ans.
D'ici à 2026, 60% des appareils électroniques devront pouvoir être réparés, alors que d'après le ministère, seuls 40% le sont actuellement. Les autres appareils doivent être remplacés dès qu'ils tombent en panne ou sont un peu usés. Et cela agace bien sûr d'abord les consommateurs qui se sentent contraints de renouveler leurs appareils et de débourser à chaque fois des sommes importantes.
La télé, elle est ancienne. Quand ils sont venus me la réparer, tout, ils m'ont dit c'est plus, maintenant ils font plus.
Ça coûte un tout petit peu plus cher de racheter du neuf, mais c'est vrai que ça coûte tellement cher de faire réparer, vous avez raison, c'est vrai.
Avec l'indice de réparabilité, les fabricants doivent se donner eux-mêmes une note en prenant en compte 5 critères. D'abord, est-ce qu'il est facile pour les clients d'accéder aux informations sur la bonne utilisation et la bonne maintenance de leur appareil? Est-ce que les données techniques des appareils restent disponibles même longtemps après leur mise sur le marché? Est-ce que l'appareil est facilement démontable et est-ce que les clients ont accès facilement aux pièces de rechange? Ce catalogue de critères, l'organisation de protection des consommateurs UFC Que Choisir les salue, mais Anne Lani, qui travaille pour Que Choisir, souligne un problème. La note finale n'est qu'une moyenne de tous ces critères. Elle peut donc camoufler certaines faiblesses aux clients.
Si j'ai 10 sur 10 sur la documentation, si j'ai 10 sur 10 sur la démontabilité, si j'ai 0 sur 10 sur le prix des pièces détachées, ben ça n'a pas de sens de faire une moyenne. Ce qui est important, c'est de dire si mon appareil tombe en panne, est-ce que je pourrais le réparer ou non ?
Cette année, de nouveaux appareils vont être soumis à l'indice, les aspirateurs, les tablettes ou les lave-vaisselle. En théorie, la note globale doit être bien visible sur l'emballage du produit, à côté du prix, sur fond rouge, orange ou vert, selon le nombre de critères remplis. Mais tous les vendeurs n'en tiennent pas compte.
Par exemple, sur Amazon, sur des Samsung, où on sait pertinemment que les indices ont été calculés, d'ailleurs ils sont accessibles en ligne, hein, on ne va pas retrouver systématiquement, et peu s'en faut, cet indice qui est affiché sur la fiche produit. Donc il y a une faiblesse de certains distributeurs pour afficher correctement l'indice.
À partir de cette année, des contrôles vont être effectués en France pour vérifier que les fabricants et les vendeurs s'en tiennent aux règles établies. Et dans 2 ans, l'indice de réparabilité doit être commué en indice de durabilité qui prendra aussi en compte la durée de vie des appareils et la possibilité ou non de les moderniser pour les mettre à jour. C'est la fin de ce magazine. Merci encore à Louis Mutch de Human Rights Watch et à Julia Boruta pour les sons de France. Pour podcaster cette émission, allez sur notre site internet dw.com/français à la rubrique Nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.